Et pour finir cette émission, comme d'habitude, on retrouve la chronique autour de l'histoire des associations en Mayenne avec Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors ce mois-ci, on parle de relations complexes qu'entretiennent les associations avec les municipalités. Souvent, ces dernières apparaissent comme des soutiens financiers et matériels pour le monde associatif, mais parfois, c'est un peu compliqué.
Oui, effectivement. Alors, pour commencer, on ne peut pas déconnecter les rapports qu'entretiennent les associations et les municipalités des rapports qu'entretiennent les municipalités avec l'État. Jusque dans les années 1880, les maires des grandes villes sont choisis par le gouvernement et ceux des petits villages par les préfets. Donc le maire, sur le terrain, est le relais de l'État. Et toute association qui veut se créer doit le faire avec le soutien du maire. C'est encore mieux et encore plus facile quand c'est le maire lui-même qui fait la démarche de demande de création. C'est le cas de certains cercles de loisirs. Cela l'est encore plus pour les corps de sapeurs-pompiers, pour les sociétés musicales dont le prestige rejaillit sur la commune et qui donc sont très appréciés par les maires.
Donc en fait, au milieu du 19e siècle, tout passe par le maire en matière associative.
Et même plus, parce que je vous avais déjà parlé de ces fanfares rurales mayennaises dont les statuts stipulent qu'elles doivent donner un concert hebdomadaire sous les fenêtres du maire. Les liens peuvent être très très forts entre municipalités et associations. Par exemple, en 1874, le maire de Pré-en-Paille, Amédée Fiché, est révoqué pour le préfet pour des raisons plus ou moins obscures. Et immédiatement, en solidarité avec le maire et en signe de désapprobation, le chef de corps des sapeurs-pompiers et le chef de la société de musique du village démissionne dans un courrier au préfet et de manière très solennelle viennent déposer en mairie casque, casquette, instrument de musique.
Donc les associations sont donc des soutiens en fait pour les municipalités. Le maire s'appuie sur elles pour entre guillemets asseoir son pouvoir au niveau local à cette époque.
Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai que progressivement le pouvoir municipal devient autonome par rapport au pouvoir central. La loi de 1884 qui fait que le maire n'est plus désigné par le pouvoir central mais il est élu comme aujourd'hui au sein du conseil municipal est une sorte d'aboutissement de ce processus. De plus en plus de choses se passent au niveau local. Être bien vu, avoir du réseau local devient donc indispensable à quelqu'un qui veut entrer au conseil municipal et surtout qui veut être élu maire. Il y a évidemment le réseau familial, le réseau professionnel et de plus en plus le réseau associatif. Par exemple, en décembre 1863, une procédure d'expulsion avec demande d'amende est engagée devant le tribunal civil de Château-Gontier par Emmanuel Gagné, président du cercle de Chemazé, contre Gilbert Gavillard. Alors, on ne connaît pas trop les motifs de cette procédure d'expulsion du cercle, mais Gilbert Gavillard n'est pas n'importe qui, c'est le maire de Chemazé. Et finalement, la procédure n'aboutit pas, mais trois mois plus tard, en mars 1864, ce même Gilbert Gavillard fonde un cercle concurrent. On entre alors dans une guerre, on peut dire, de guerre des cercles, qui est aussi une guerre de pouvoir entre deux personnalités locales, une guerre qui est gagnée au final à Chemazé par Emmanuel Gagné, puisque de président de cercle, il devient adjoint au maire en 1865, Gavillard n'est plus le maire, et surtout Emmanuel Gagné devient le maire en 1867. Et donc l'expulsion de Gilbert Gavillard du cercle de Chemazé en 1863 est, semble-t-il, annonciatrice d'une perte d'influence politique locale. Et d'ailleurs, à l'élection municipale de 1874, où il est à nouveau candidat, il n'obtient que 10 voix, quand, dans le même temps, Emmanuel Gagné et ses conseillers sortants en obtiennent chacun 275.
Donc il peut y avoir des relations tendues entre responsables associatifs et membres du conseil municipal, du fait notamment que la municipalité est pourvoyeuse de subventions, d'autorisations en tout genre, avec une plus grande autonomie vis-à-vis du pouvoir central.
Oui, effectivement, au début du XXe siècle, les conseils municipaux en général et les maires en particulier ont encore tendance à considérer les associations du village comme des annexes du conseil municipal sur lesquelles le maire aurait tout pouvoir. Alors pour illustrer ça, le plus bel exemple que j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est ce qui se passe à Sainte-Suzanne en avril 1907. Le 18 avril de cette année, la venue du préfet est annoncée dans le village pour présider un conseil de révision, c'est-à-dire une réunion au cours de laquelle est examiné le recrutement des jeunes hommes du canton pour le service militaire. Et aussitôt, le chef de la société philharmonique de Sainte-Suzanne se met en tête d'accueillir musicalement le préfet et de lui jouer une petite marseillaise, ce qui n'est pas du tout du goût du maire de Sainte-Suzanne, qui est pourtant du même bord politique que lui. Et donc pendant une semaine, ces deux personnalités vont se mener à une guerre d'influence auprès des musiciens. Et au matin du 18 avril, le chef de musique a quand même réussi à convaincre une partie de l'orchestre d'attendre le préfet à l'entrée du village pour lui jouer donc une marseillaise et de lui faire remettre un petit bouquet par un jeune garçon. Le convoi du préfet est visible sur la route qui vient d'Evron et il est en approche. Les musiciens commencent à jouer les premières notes. Le jeune garçon s'avance au milieu de la rue et le convoi passe sans s'arrêter, filant directement en mairie, puisqu'en fait, le préfet avait été averti par le maire. Colère du chef de musique, qui à son tour se précipite à l'hôtel de ville, vitupère contre le préfet, comme quoi il n'avait jamais vu un préfet refuser d'écouter la Marseillaise, remet un courrier au préfet que celui-ci déchire ostensiblement. Dans les jours qui suivent, le maire échange par courrier sur l'incident avec le préfet, assurant ce dernier de tout faire pour que le calme revienne à Sainte-Suzanne et témoignant de sa volonté de reprendre en main fermement la société philharmonique.
Ouais, donc les associations deviennent donc enjeux de pouvoir. Il y a de véritables rivalités de personnes qui, pour contrôler en fait l'activité associative et donc par-delà la vie politique locale.
Oui, et c'est d'autant plus vrai qu'avec la multiplication des associations à la fin du 19e et au début du 20e siècle, eh bien les enjeux se multiplient, les cercles, les corps de sapeurs-pompiers, les sociétés musicales, les sociétés de préparation militaire et, phénomène qui va être amené à se développer fortement au début du 20e siècle, les sociétés sportives. Mais cela, je vous en parle le mois prochain.
Merci beaucoup Christophe. La guerre des cercles, ça pourrait presque être le titre d'un livre, mais c'est pas celui-ci qui paraît aujourd'hui même. Le livre s'appelle « Le plaisir du lien, la sociabilité associative en Mayenne de 1830 à 1930 » aux éditions Presse universitaire de Rennes, qui retrace un petit peu justement tout ce qu'on en entend dans ces chroniques.
Exactement.
Merci beaucoup Christophe.
Au revoir.